Je me suis trouvé dans des situations où je ne pouvais absolument et strictement rien faire. J'étais dans une impasse et aucune issue en vue. Il ne s'agissait pas spécialement de quelque chose de grave, mais d'un mur qui m'empêchait de réaliser mes projets. En de telles circonstances, celui qui a confiance en Dieu peut et doit s'adresser à lui, car il n'est jamais pris de court, jamais sans solution. Mais il faut bien entendu que la requête soit conforme à sa volonté. Je continue à lire dans le troisième chapitre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Verset 11. Paul a déjà prié disant « Nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. » L'apôtre voulait absolument retourner à Thessalonique afin de continuer l'enseignement qu'il avait commencé et qu'il avait dû interrompre brusquement suite à une persécution. Il avait à cœur de compléter la connaissance des croyants sur la personne de Dieu afin qu'ils aient davantage confiance en lui et obéissent à toute sa volonté. L'apôtre Pierre écrit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Fin de citation. Paul prie donc Dieu d'aplanir son chemin afin qu'il puisse accomplir son projet. Jusqu'à présent, Satan lui avait mis les bâtons dans les roues, l'empêchant de réaliser son désir. Il a donc besoin d'une intervention divine. Les préceptes et les promesses des Écritures sont les fenêtres par lesquelles les croyants regardent pour voir Dieu et sa gloire et pour comprendre sa volonté, que Paul définit dans une autre épître, l'appelant « ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ». Dans la mesure où je conformerai mon comportement aux vérités de la parole de Dieu, je progresserai dans ma vie spirituelle. À notre connaissance, Paul n'est jamais retourné à Thessalonique. Néanmoins, son désir de les voir grandir dans la foi s'est réalisé, puisqu'au tout début de sa seconde lettre, il écrit « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. » Je continue le texte. « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » Verset 12. En premier lieu, Paul demande à Dieu que l'amour des Thessaloniciens augmente et abonde envers les croyants. Dans le Nouveau Testament, on trouve plus de 30 fois l'expression « les uns pour les autres » ou une formule similaire, et elle est le plus souvent utilisée avec le commandement d'aimer autrui. Deuxièmement, l'apôtre prie pour que les Thessaloniciens aiment davantage tous les hommes. Puisque Dieu a aimé le monde et envoyé son Fils mourir pour les péchés de tous les êtres humains, les croyants qui ont été ainsi aimés alors qu'ils n'en étaient pas dignes, sont tenus d'aimer à leur tour les non-croyants, même leurs ennemis. Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est le moment de faire une pause et de me poser la question « Si j'étais traduit en justice parce que je crois en Jésus-Christ, le procureur de la République trouverait-il assez de preuves pour me faire condamner ? Est-ce que j'aime mes ennemis ?» Ce scénario hypothétique n'arrivera jamais, me direz-vous. Erreur ! Tous les croyants vont comparaître devant le tribunal de Christ. Il évaluera alors ma vie et enfouira les moindres recoins. Toutes mes œuvres seront passées au crible, mon obéissance et ma fidélité à sa parole seront jugées. Suite à cet examen minutieux, ce sont mes motivations qui détermineront si je serai récompensé ou si je n'aurai rien. L'amour n'est pas le seul trait distinctif du croyant. D'autres commandements du Nouveau Testament dictent l'attitude que je dois adopter vis-à-vis de tous les hommes, comme par exemple rechercher la paix avec eux, leur faire du bien, prier pour eux, faire preuve de patience, de douceur et de respect envers eux. Finalement, Paul dirige l'attention des Thessaloniciens vers lui et ses collaborateurs, disant « à l'exemple de l'amour que nous vous portons ». L'équipe missionnaire avait aimé les Thessaloniciens alors que c'était des étrangers d'une culture et avec des croyances très différentes des leurs. Mais ils ont considéré leurs besoins spirituels et sont allés leur annoncer la bonne nouvelle au risque de leur vie. Puis, Paul et ses compagnons ont aimé ces nouveaux croyants au point où ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour les aider dans leur marche, ce qui est l'équivalent de vouloir leur bien ultime. Je finis maintenant le chapitre 3. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Verset 13. L'objectif final de la prière de Paul pour les Thessaloniciens est qu'il garde toujours en vue la gloire à venir parce qu'elle produit une espérance purificatrice. Dans une autre épître, Paul écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Fin de citation. Remarquons en passant que toute action de Dieu en faveur de l'homme puise sa source dans la grâce. Le croyant est donc appelé à vivre conformément aux préceptes de la parole de Dieu alors qu'il attend la venue du Christ. Sa foi en Dieu et son amour pour les autres sont motivés par son espérance qui lui permet déjà de voir la réalisation de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Cette espérance est comme un diamant aux multiples facettes, mais c'est l'apôtre Jean qui en précise l'aspect principal quand il écrit. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Fin de citation. L'espérance et la future gloire des enfants de Dieu est d'être semblable à Jésus en sainteté afin d'avoir avec lui une relation incomparable et sublime. Certes, les croyants auront un corps de ressuscité, parfait et incassable, et ils connaîtront un bonheur ineffable qui durera éternellement. Mais le but ultime de l'espérance chrétienne est d'être semblable à Jésus. L'anticipation de la venue du Christ a un effet purificateur sur le croyant et s'il marche droit, il désirera sa présence. Ces deux dynamiques forment une boucle et jouent l'une sur l'autre. Le retour de Jésus qui viendra chercher l'Église est l'événement et la raison qui devrait produire en tout croyant une espérance purificatrice. Quand l'apôtre parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, il s'agit des croyants déjà morts mais ressuscités qui l'accompagnent. Seulement, de quel avènement s'agit-il? Il y a en grec plusieurs termes qui expriment l'idée d'un avènement. Tout d'abord, épiphaneia, qui a donné épiphanie en français et qui veut dire éclairer ou apparaître, devenir visible. La première venue de Jésus en tant qu'homme était une apparition de Dieu qui s'est rendue visible. Paul écrit dans une autre épître « Quand Jésus-Christ, la grâce de Dieu, s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes ». Le mot épiphanie peut s'utiliser pour décrire la première venue du Seigneur le jour de Noël, mais aussi sa seconde lorsqu'il reviendra dans sa gloire pour établir son royaume de 1000 ans sur terre. Le second mot qui exprime l'idée d'un avènement est « apocalypsis », qui veut dire révélation ou dévoilement, inauguration. Il a donné en français Apocalypse, qui est le nom du dernier livre du Nouveau Testament et de tous les textes sacrés. Ce terme ne serait pas approprié pour la première venue du Christ, puisque lorsqu'il est né à Bethléem, il était un simple bébé. Jésus était comme Dieu qui, sous l'ancienne alliance, se trouvait dans le sein des saints du tabernacle et du temple, mais caché à tout être humain par un rideau. Seul le grand prêtre y avait accès une fois par an lors du Yom Kippour, le grand jour des expiations. Il entrait alors avec du sang d'un animal égorgé qu'il répandait sur l'autel. Lorsque Jésus est venu la première fois, sa divinité était invisible parce que voilée à l'intérieur d'un corps humain. Mais lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, ce sera une apocalypse au sens premier du mot. Le troisième terme grec qui exprime l'idée d'un avènement est parousia. Il signifie à la fois arrivée et présence. Même aujourd'hui, on utilise quelquefois ces deux mots de manière interchangeable. Par exemple, j'ai déjà été introduit devant des auditeurs de la manière suivante. Nous sommes heureux de la venue de Jacques parmi nous, ou encore, nous sommes heureux de la présence de Jacques parmi nous. En grec, on dirait simplement, nous sommes heureux de la parousia de Jacques, c'est-à-dire de sa venue et de sa présence. Paul utilise parousia quand il parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus, ici, et dans le chapitre précédent, où parousia est traduit par venue. Je rappelle le verset. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Il s'ensuit que quand Paul parle de parousia, traduit par venue ou avènement, il fait allusion au retour du Christ au moment où il viendra chercher son Église. Lors de cet événement extraordinaire, le prochain sur le calendrier de Dieu, tous les croyants seront ôtés de ce monde par Jésus qui les emmènera avec lui dans les cieux, où ils seront pour toujours en sa présence. C'est aussi à partir de cet enlèvement que tous ceux qui ont fait confiance à Jésus seront présentés sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père. Nous arrivons maintenant au chapitre 4 de cette première épître dans lequel, et cela jusqu'à la fin de cette lettre, Paul exhorte les Thessaloniciens à marcher d'une façon digne de Dieu tandis qu'ils attendent l'avènement de Jésus-Christ quand il viendra chercher tous les membres de son Église. Je commence à lire au chapitre 4 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Verset 1. Ici, Paul n'est pas autoritaire, mais doux. Il ne commande pas, il exhorte et encourage, il pousse gentiment les Thessaloniciens, un peu comme une maman qui dirige tendrement son bambin qui avance en hésitant. L'apôtre montre de l'humilité et de la chaleur envers ses croyants. Il n'avait d'ailleurs aucune raison de les bousculer puisqu'ils se comportaient déjà d'une manière digne de leur appel et étaient donc agréables à Dieu. Le mot important de ce passage est le verbe « se conduire », aussi rendu par « marcher » dans d'autres traductions. On le retrouve encore plus loin où Paul dit « Une telle conduite de votre part vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. » Cette conduite est l'aspect pratique de l'espérance de l'avènement du Seigneur. En attendant qu'il revienne chercher les croyants, ceux-ci sont ici-bas, les pieds sur terre, et ils ont besoin de marcher droit dans les domaines moral et spirituel. Le croyant ne fait pas ce qui lui plaît, mais ce qui est agréable à son maître, Jésus-Christ. Cependant, ce qui est bien aujourd'hui ne conviendra plus dans quelques années, car le Seigneur désire que ceux qui lui appartiennent fassent toujours davantage de progrès dans leur marche avec lui. La finalité de la vie chrétienne est de connaître Dieu de façon de plus en plus intime. L'apôtre Jean décrit ces trois degrés de la maturité du croyant qu'il appelle successivement les enfants, les jeunes gens et les pères. La première étape consiste à savoir que ses péchés sont pardonnés et à considérer Dieu comme son Père céleste. La seconde, c'est connaître et mettre en pratique les vérités essentielles des Écritures et discerner les ruses et les pièges de Satan. La troisième étape est celle de la maturité chrétienne. Elle consiste à pouvoir enseigner la parole, mais surtout à entretenir une relation de plus en plus intime avec son Père céleste. Grâce à l'enseignement et à l'exemple de l'apôtre et de ses collaborateurs, l'Église de Thessalonique avait atteint un haut niveau de spiritualité qui fait qu'elle était montrée en exemple aux autres assemblées grecques des provinces de la Macédoine et de l'Achaïe. Selon la terminologie employée par l'apôtre Jean, c'était des jeunes gens spirituels en voie de devenir des pères. La tentation était donc pour eux de se reposer sur leur laurier en se contentant du statu quo. Or, même Paul n'était jamais satisfait de ses progrès dans la foi. À une autre église, il écrit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Fin de citation. L'apôtre n'était pas du genre « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Les vérités qu'il enseignait, il les appliquait d'abord à lui-même. Paul n'avait aucun goût pour la médiocrité et ne se contentait pas non plus d'avoir la moyenne. Il recherchait et aspirait à obtenir la mention « excellent » dans tous les domaines de sa vie. Je continue le texte aux Thessaloniciens. « Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. » Verset 2. Le mot pour « instruction » signifie « ordre donné par un officier supérieur à des subordonnés ». Paul demande aux croyants de se remémorer l'enseignement qu'il leur avait donné et aussi de se rappeler que celui-ci n'avait pas une origine humaine mais provenait du Seigneur lui-même. Or, le croyant lui doit une obéissance absolue. En effet, Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Et encore, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et l'apôtre Jean écrit « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Fin de citation. Pour mieux connaître Dieu et pour l'aimer davantage, il est nécessaire de vivre conformément aux enseignements des Écritures, ce qui est la seule façon de progresser dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, et de se rapprocher de la perfection de Dieu. Ceci dit, il est bon de rappeler que ce n'est pas en obéissant aux 10 commandements qu'on peut obtenir la vie éternelle. Ceci avait été donné aux Israélites qui ont été totalement incapables de les suivre, ce que l'apôtre lui-même a rappelé lors du concile de Jérusalem. Je lis le passage. Pierre se leva et leur dit « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non, voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière que... » Fin de citation. La loi de Moïse et les préceptes que Jésus a donnés dans le sermon sur la montagne ont pour objectif de me prendre par la main, de me conduire à la croix et de me dire « Tu vois, tu es incapable d'obéir à Dieu et donc tu as besoin d'un sauveur. Les commandements jouent le rôle d'un miroir qui nous montre qui nous sommes, de véritables pécheurs, coupables devant leur Créateur. Pourtant, le Nouveau Testament est rempli de directives qui sont d'un niveau encore plus élevé que ceux contenus dans la loi de Moïse. Mais alors, comment quelqu'un qui est incapable d'obéir aux 10 commandements peut-il mettre en pratique tous les préceptes que Jésus a donnés ou que l'apôtre Paul a écrits dans ses épîtres? C'est impossible à l'homme livré à ses seules possibilités humaines, car sa bonne volonté est tout à fait inadéquate. Seule l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant peut effectuer ce miracle. Supposons que quelqu'un vous ait fait une crasse et que vous l'avez dans le nez. Vous êtes croyant et décidé de lui pardonner et de l'aimer. C'est facile à dire, mais comment allez-vous faire? Ça va être difficile d'accomplir une tâche pareille de vous-même. J'en ai fait l'expérience. La seule solution, ou la meilleure, je n'en connais pas d'autre, est de prier pour cette personne et de permettre ainsi au Saint-Esprit de l'aimer à travers moi. Faites-en donc l'expérience.